Je suis hyper heureuse de pouvoir enregistrer cet épisode. Je me rends compte que le podcast a 3 ans et demi, même plus que ça. À l'époque, j'étais sous chimio quand j'ai commencé à l'enregistrer. Et pour info, aujourd'hui, je suis à 3 ans et demi de rémission. C'est bizarre parce qu'en fait, on compte la rémission à partir du moment de l'opération, à partir du moment où il n'y a plus de cellules cancéreuses dans votre corps, qu'on vous a tout enlevé et que le scan est nickel, ce qui était mon cas. Donc voilà, c'était en avril 2021 et très exactement que j'ai eu l'opération. Donc voilà, j'arrive dans mon 3 ans et demi. J'ai un scanner bientôt, début septembre, le jour de la rentrée. Je croise tout ce que j'ai pour qu'il soit toujours nickel. Mais voilà, c'était juste à faire un petit point pour les personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui l'écoutent qui sont malheureusement aussi en traitement pour le cancer. Et c'est toujours bien de donner un petit peu de nouvelles. Voilà. Sinon, ça fait hyper longtemps que je voulais enregistrer cet épisode de podcast, mais j'avoue, je pense que je n'étais pas prête à l'enregistrer jusqu'à maintenant, parce que ça demande déjà beaucoup de travail et de disponibilité de cerveau que je n'avais pas jusqu'à récemment. Donc aujourd'hui, plutôt ce soir, nous allons parler de la reconstruction mammaire et plus précisément de ma reconstruction mammaire. Alors, il faut savoir qu'avant d'avoir un cancer du sein, je ne comprenais pas trop que certaines personnes ne faisaient pas de reconstruction après leur mastectomie. Mais voilà, quand j'ai été moi-même confrontée à cette maladie, le cancer et d'avoir subi cette mastectomie malgré moi, j'ai compris aussi que je n'aurais pas de reconstruction immédiate. Je me suis dit, ah mais de toute façon, moi je me ferai reconstruire. Voilà, c'était vraiment dans mon idée. J'avais 33 ans, il était hors de question que je me fasse pas reconstruire. J'avais une très belle poitrine. Je l'ai beaucoup dit, mais c'était le cas, voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais voulu faire reconstruire, mais malheureusement j'ai eu ce cancer et je me suis dit, oui bien sûr que je me ferai reconstruire. Et en fait la réalité fait que, vous allez comprendre que ça n'a pas forcément été si évident que ça. Voilà. Donc j'ai été opérée et tout a changé. En fait j'ai réalisé que ce qui me définissait ce n'était pas ma poitrine ni mes cheveux, j'en ai déjà beaucoup parlé, même si ça fait partie de mon identité bien sûr, je l'ai déjà dit et redit plein de fois. Mais voilà, ça a été un crève-cœur de devoir mutiler mon corps et donc d'enlever ce sein malade. Alors oui, je parle de mutilation parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti au début. Il faut quand même se remettre dans le contexte. Donc j'avais 33 ans, comme je l'ai dit. Je venais de subir 5 mois de chimiothérapie et 1 mois de pause avant l'opération. J'avais plus de cils, plus de sourcils et plus de cheveux à ce moment-là. Je ressemblais vraiment à rien. Alors, je le dis vraiment avec beaucoup d'amour sur la période que j'ai vécue qui était vraiment pas facile, mais voilà, je ressemblais à un petit crâne d'œuf et je trouve que quand on n'a pas de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, on se ressemble tous, il y a juste notre couleur de peau qui change. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui nous rassemble entre malades, c'est ce fait qu'on ressemble à plus à grand chose en fait. L'identité elle fait, je trouve que c'est vraiment le cils et les sourcils qui nous définissent, qui définissent un regard, qui définissent une tête, une personnalité. Et c'était pas forcément les cheveux, c'était vraiment les cils et sourcils. Je trouve que c'était terrible. Et donc je redis, j'avais 33 ans et plus de cils, plus de sourcils, plus de cheveux et un sein en moins. Et là, tu te dis, waouh, mais c'est horrible. Je me souviens, j'ai vu une psy. Je sais pas si j'en ai parlé dans un précédent épisode de podcast, je crois que oui, mais ça a été terrible pour moi, cette façon de parler avec la psy. Mais je me suis beaucoup dissociée aussi quand je me regardais dans le miroir, etc. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs aussi beaucoup aidé à ne pas sombrer dans la dépression, car l'image que l'on renvoie dans le miroir et celle que l'on s'imagine avoir peuvent être très différentes. Et je me rappelle quand même pas mal de fois d'être étonnée chaque matin en me regardant dans le miroir en me disant « Ah oui, ce n'est pas un rêve, moi je suis bien malade et je n'ai plus de cheveux », alors que moi je m'imaginais avec mes cheveux d'avant la maladie. Donc c'est très bizarre. Et donc, après avoir subi ma mastectomie, je ne voulais plus du tout retourner dans une salle d'opération. Voilà, ça a été quelque chose de... Même si ça s'est bien passé, hein, franchement. Mais je ne voulais plus subir une nouvelle anesthésie générale. C'était ma 3e. J'en avais une à 18 ans pour dans le sagesse. Une à 29 ans et quelques, presque 30, pour la naissance de mon fils. En plus, c'était sous anesthésie générale. Voilà, sa naissance, césarienne d'urgence, horrible. Et ensuite, une mastectomie. Je me suis dit, la vie, elle n'a pas atterri très cool avec moi. Et voilà, et une anesthésie générale, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire de chaque matin. Et voilà, donc je me suis dit, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de réfléchir. J'ai pas envie d'avoir la pression de tout le monde. Est-ce que tu te fais reconstruire? Est-ce que tu ne te fais pas reconstruire? Je trouve que c'est terrible. On nous pose 15 000 questions. Et voilà, ça ne regardait que moi au final. Voilà, donc il me restait donc 25 séances de radiothérapie et 6 mois de chimiothérapie orale, parce que ça, je ne le savais pas encore. Mais en fait, j'ai eu, suite à la napate, il me restait 20% de cellules cancéreuses dans ce qu'ils m'ont enlevé. Donc du coup, j'avais eu de la chimio orale, qui s'appelle du Xeloda, qui m'a permis en fait d'éliminer les dernières traces, éventuelles traces qu'il pouvait y avoir dans mon corps, parce qu'il n'y en avait plus, de cellules cancéreuses, voilà, pour me donner toutes mes chances. À l'époque, c'est ce qu'on donnait, et c'est ce qu'on donne encore aujourd'hui, je crois, pour certaines personnes, soit qui sont à nouveau avec des cellules cancéreuses dans leur corps, ou je crois qu'on le donne encore aujourd'hui pour les personnes qui ont, comme moi, un peu de résidus tumoraux dans ce qu'on leur a enlevé. En fait, l'idée de devoir à nouveau me faire opérer, ça a été complètement surréaliste. Voilà. Je me suis dit, j'ai trop souffert. Je suis mutilée, j'ai assez subi. Et c'est vrai que quand on m'a dit la chimiothérapie, c'est le pire, tu fais le pire, etc., je ne le comprenais pas jusqu'à ce que je le vive. Je trouve que effectivement, l'opération s'est très bien passée. J'avais été voir ma médecin qui fait également acupuncteur. C'est un médecin acupuncteur, vous savez, c'est les seuls qui ont le droit d'exercer à ce niveau-là. Et j'étais complètement zen quand j'ai fait l'opération, donc là-dessus, aucun problème. Je pense que ça m'aurait aidé de la continuer de la voir. Après, je voulais plus y aller parce que je déteste les aiguilles. Et ça marchait bien sur moi. J'avoue que ça marchait vraiment bien. J'étais vraiment zen. J'ai eu des globules blancs en hausse. J'ai jamais eu de pause dans ma chimiothérapie grâce à ça. Et voilà, je le recommande vraiment aux personnes qui sont sous chimio d'en faire. Et par contre, c'est vrai que je ne voulais plus du tout me faire opérer. J'avais les rayons tous les jours pendant 5 semaines. Et je crois qu'au début, je mesurais pas la fatigue que ça allait donner d'aller tous les jours faire des rayons. C'est vraiment fatigant, alors que pourtant j'habite vraiment pas très loin de Becquerel. Voilà, donc c'était quelque chose pour moi que j'imaginais pas vivre comme ça. Et c'est vrai que ça a été une grosse claque finalement de me rendre compte que j'étais plus si sûre que ça de vouloir me faire opérer. Et je crois que l'entourage, il a pas très bien compris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais complètement habituée très rapidement au fait de ne plus avoir de sein droit. C'est-à-dire que mes bras, quand je les bouge, ils ont très vite compris qu'il n'y avait plus de sein droit et en fait, il n'y avait pas de malaise. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas, vous savez, ce syndrome du membre manquant. Moi, je l'ai vécu comme si j'avais limite toujours été sans ce sein. Et ça m'a ramené, en fait, à l'époque où on m'appelait n'a qu'un sein quand j'étais gamine, quand j'ai eu un seul sein qui a poussé vite, l'autre a poussé plus longtemps derrière. Enfin, il y avait un petit décalage. Avec le recul, je me dis, est-ce que c'était un signe d'un cancer qui allait arriver ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que voilà, c'est le corps, il est assez dingue là-dessus. Il est vraiment résilient. Et à quel point, en fait, que j'ai très vite perdu les prothèses externes que j'avais. La première, elle était en mousse. Après, c'était une sorte de prothèse universelle qu'on nous donne, qui sert à rien. Et je l'ai perdue. Et du coup, j'ai eu aucun souci à me balader pendant 2 étés de suite avec un seul sein. Alors là, je mettais souvent des débardeurs, etc. Forcément, il y avait une bosse, une seule, pas deux. Forcément, il y avait des regards. Mais je m'en fichais un petit peu. Et en fait, j'ai compris pourquoi certaines femmes ne se devaient pas reconstruire. En fait, je me rappelle, donc j'étais à Montréal, j'avais été hyper observée dans la rue. Je pense que c'était peut-être des touristes, je ne savais pas trop, mais ça m'avait vraiment mis mal à l'aise pour la première fois. Les regards insistants au niveau de la poitrine, les gens qui essayaient de savoir pourquoi je suis comme ça. Et en fait, jusqu'à présent, voilà, je comprenais vraiment les femmes qui ne se faisaient pas reconstruire, comme je le disais, c'était vraiment parce qu'elles étaient dans cette optique de ne plus souffrir. Et très certaines, très heureuses d'avoir une reconstruction à plat qui existe également. Donc en fait, c'est quand vous faites opérer une mastectomie, vous demandez au chirurgien que voilà, vous précisez que vous n'allez pas vouloir faire de reconstruction avec prothèse derrière, que vous préférez avoir une reconstruction à plat, donc vous êtes plate. Et je sais que, on est quand même dans une société quand même pas mal patriarcale, beaucoup d'hommes n'écoutent pas la patiente. Vous savez, c'est comme quand on demande une ligature des trompes quand on est une femme. Très souvent, on a des gens qui nous disent de réfléchir, qui nous disent « ne fais pas, vous allez le regretter plus tard ». Mais j'ai envie de dire « mais est-ce que c'est votre corps ?» Non. Donc, laissez-nous décider ce qu'on veut à ce niveau-là. Et c'est vrai que, à partir du moment où tu mets en danger personne d'autre, ce n'est pas un vaccin, on parle de quelque chose qui est vraiment... on parle de l'ordre de l'intime au final. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose de sacré et en fait, voilà, il faut que le choix soit respecté. Moi, j'avais bien sûr demandé à ce que, parce que je voulais être absolument reconstruite. Donc voilà, que tout soit nickel. Et c'est vrai que j'avais une très belle cicatrice. Ma chirurgienne a fait un très bon boulot, c'est ce qu'on m'a toujours dit, ma kiné me le disait, d'autres personnes me le disaient, t'as une très belle cicatrice. Et moi, c'est vrai que cette phrase, je me suis toujours demandé, mais ça veut dire quoi d'avoir une très belle cicatrice ? Pour moi, c'est une cicatrice, c'est pas incroyable, mais c'est vrai qu'elle était belle. Je dis maintenant parce que j'ai été reconstruite, et donc forcément, je vois ma cicatrice aujourd'hui, que je travaille, etc., avec ma kiné et avec ma dermato, ça n'a rien à voir. J'avais une très belle cicatrice de mastectomie, donc j'aurais très bien pu rester comme ça pendant X années, et j'en connais qui le sont, qui ne veulent pas se faire reconstruire, des copines, et je comprends maintenant très bien leur choix. Mais je pense que voilà, c'est comme dans tout type d'expérience, il faut le vivre pour le comprendre. Ou alors avoir extrêmement d'empathie et être très curieux et se mettre à la place des gens, ce qui était à l'époque pas du tout mon cas, je le dis vraiment nettement. Ça m'a fait grandir en fait cette expérience et ça m'a permis de voir les choses différemment. Et donc c'est l'été après avoir été à Montréal que j'ai réalisé en fait, voilà, j'ai eu ce déclic, j'ai eu 35 ans. Et après avoir passé quand même 2 années terribles dans mon corps, hein, c'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas, la chimiothérapie orale m'avait fait prendre beaucoup de kilos, 9 kilos à peu près, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de cellulite, beaucoup de gras que j'ai eu extrêmement de mal à le faire partir. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas, vraiment pas. Et c'est en faisant la méthode 5-12-30 dont je parle régulièrement sur mon compte que j'ai commencé à perdre mes premiers kilos. J'avais lu Glucose Goddess, donc j'avais commencé à mettre en place certaines choses, juste la chose du pratique, enfin du bon sens, à manger par exemple des brocolis, si on a une faim, parce que ça cale, manger salé le matin, et ça m'a vraiment aidé le matin en mangeant salé à perdre les quelques kilos au début, ça a été l'impulsion nécessaire. Malheureusement, j'ai repris ces quelques kilos que j'ai reperdus, mais j'en avais perdu 4 d'un coup, j'en ai récupéré 2, et c'est vrai que depuis je stagne. Avant, je faisais 53 kilos, après j'en ai fait 50. 50, c'était mon poids, hein, avant d'avoir eu mes enfants. J'ai toujours fait ce poids-là, sans aucun souci de santé, je souffrais pas de problèmes au niveau de la nourriture. Mais voilà, donc 53, puis, parce que j'étais en postpartum, 50 ensuite pendant la chimio, et je suis passée à 59. Et là, je voyais surtout voilà, mes jeans que je fermais pas, je me trouvais différente. Et imaginez, comme je disais, tout le packaging que j'avais avant, c'est-à-dire que j'avais... tout le packaging, n'importe quoi, tout le package que j'avais avant, c'est-à-dire chauve, sans cils, sans sourcils, un sein en moins et 9 kilos qui n'étaient pas prévus, mais de cellulite. C'est pas la même chose. Et donc, 35 ans, j'ai commencé à reprendre confiance en moi, en confiance en mon corps surtout. J'avais envie de plaire à nouveau et j'avais envie de me plaire en priorité. Voilà, j'avais aussi envie de me sentir à nouveau bien dans mon corps. Et pour moi, ça passait par la reconstruction. C'était vraiment... voilà, j'adorais porter des décolletés avant. J'adorais ça, comme je l'ai vraiment dit, j'adorais ma poitrine. Et j'avais envie à nouveau de retrouver une symétrie à ce niveau-là, de pouvoir à nouveau oser des décolletés, pas me stresser par rapport à la cicatrice, ou surtout qu'on voit que j'avais un sein en moins. Et moi, de me trouver à nouveau attirante. Je ne dis pas que les femmes qui ne se font pas reconstruire ne sont pas attirantes, loin de là. Je parle de mon cas à moi, de moi, comment j'imaginais ma vie, et je l'imaginais avec ces 2 seins. Voilà, j'ai quand même vécu quasiment 2 ans sans, avec un seul sein, et ça s'est très très bien passé. Mais j'avais envie, moi, de me retrouver, de me reconquérir, et je me dis, t'as 35 ans, t'as tout le temps de ne pas vouloir te reconstruire. Et peut-être qu'à 60 ans, je ne l'aurais pas fait, pour X ou Y raison, plus envie de souffrir. Voilà. Mais là j'avais envie et je suis très heureuse de l'avoir fait. Et c'est vrai que quand j'ai eu ce déclic, donc c'était au mois d'août, donc l'année de mes 35 ans, j'étais voir le chirurgien en septembre. Voilà, et en fait c'est vrai, en fait c'est en me disant que j'avais envie de vivre intensément, comme je disais, de me plaire, que j'ai voulu faire cette reconstruction. Et donc en septembre j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien dont m'avaient parlé mes amis au tout début, quand j'ai appris que j'avais un cancer. Il faut savoir que, comme je l'avais déjà dit, j'ai 2 personnes de mon entourage, plutôt l'entourage de mon mec, qui sont chirurgiens. Un qui est en gynécologie, cancérologie, qui m'a pris en charge tout début avec sa femme, je vous en ai déjà parlé, qui m'avait parlé d'un spécialiste, un chirurgien qui, lui, il était trop fan, et une amie de mon chéri, une amie d'enfance, qui est chirurgienne esthétique, et qui m'a également parlé de cette personne. Et il s'est passé un truc, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai une de mes anciennes collègues, du temps où j'étais attachée de presse, qui a eu un cancer du sein 6 mois après moi. Donc déjà la grosse claque. Quand je suis allée la voir à Paris, chez elle un jour, on s'est montré mutuellement nos poitrines. Alors ça, c'est un truc que je n'aurais jamais cru qu'à l'époque où on bossait ensemble. Mais quand vous avez eu un cancer, vous traversez une étape de ouf. Incroyable, une connexion incroyable avec certaines personnes. Et du coup, vous montrez vos seins. On s'est montré nos seins avec pas mal de personnes, hein, il faut le savoir. Mais voilà, j'ai aucun souci avec ça. Je l'ai montré à pas mal de mes amis aussi qui étaient curieuses. Et je trouve ça bien. de montrer qu'on peut que c'est, ce que c'est en fait, pas avoir de tabou là-dessus. Et ici, figurez-vous que mon amie, mon ancienne collègue, a été opérée, reconstruite par le chirurgien qu'on m'avait conseillé. Alors ça a été vraiment aussi un déclic, forcément. Sa poitrine était magnifique. Alors elle a été subi la mastectomie et reconstruction immédiate, ce qui n'a pas été mon cas. Mais voilà, moi je suis hyper contente d'avoir finalement fait ce choix de chirurgien. La seule chose que je regrette, et c'est vrai qu'à l'époque j'étais complètement à l'ouest, c'est de ne pas m'être rendu compte que le tarif qu'il m'annonçait, c'était du tarif de dépassement d'honoraires. En fait, la reconstruction de ma mère, elle est prise en charge, même dans le privé. Et il faut faire quand même une demande, hein, il faut le savoir. Mais c'est les dépassements d'honoraires. Et moi, j'avoue que ça m'écœure un petit peu. Je sais très bien que c'est un métier fatigant, etc. Mais quand il y a quand même 10 opérations dans la journée, avec 2 200 € de dépassement d'honoraires, alors exactement 1 800 pour le chirurgien et 400 pour l'anesthésiste, je trouve quand même que c'est une très bonne journée pour eux. Et que quand c'est un cancer, je pense qu'il pourrait y avoir un forfait max. C'est-à-dire qu'on fait par rapport à ce que la mutuelle prend en charge. Ma mutuelle n'a pas pris beaucoup en charge alors que je paye une blinde. Et avec le recul, j'ai même pas pensé à ça. Et c'est vrai que quand j'ai des lectrices qui m'ont dit, je suis passée par lui suite à mes conseils, et elles m'ont dit, j'ai réussi à négocier les dépassements d'honoraires, et je trouve que c'est un peu à la tête du client, et je trouve ça un peu triste, parce que moi j'avais de l'argent là-dessus à ce moment-là, que j'aurais préféré mettre dans ma maison de campagne, que j'aurais préféré mettre de côté pour les coups durs, et je l'ai mis dans mon sein. Alors quand les gens disent, oui, j'ai déjà eu des messages un jour là-dessus, en mode, c'est ton choix de te faire reconstruire, j'ai envie de dire, mais c'est juste hallucinant d'entendre une chose pareille. Mais voilà, c'était un peu le côté un peu... voilà. Il devrait y avoir en fait un plafonnement là-dessus. Et je suis désolée de le dire, c'est vraiment ce que je pense. C'est que quand il s'agit d'une reconstruction mammaire, je ne parle pas d'une augmentation mammaire, je parle vraiment d'une reconstruction mammaire, ce qui est mon cas, et bien tout simplement, ça devrait être plafonné à maximum 500 €. Maximum. Voilà, je trouve que c'est le coup de gueule que je dis, donc renseignez-vous. Voilà, moi, je suis un peu écœurée quand j'ai su que les tarifs, en fait, ils n'étaient pas fixes, ils étaient à la tête du client. Ça a été un peu la douche froide. C'est aussi pour ça que voilà, je ne donne pas plus forcément le nom de mon chirurgien, sauf si on me le demande. Déjà parce que voilà, je ne vais pas lui faire de la pub, hein, j'ai payé. Ce n'est pas un partenariat du tout, mais voilà, ça a un peu dégoûté. Après, c'était un chirurgien qui a fait un excellent boulot. Je ne vais pas vous mentir. Tout le monde m'a dit, t'as une reconstruction incroyable, etc. Les professionnels qui s'y connaissent. Mais voilà, le suivi a été un peu ledge. Je vous en parlerai un petit peu après. Voilà, le suivi était un peu ledge. Et c'est ce qui fait que voilà, je suis un peu maintenant avec du recul. Voilà, un petit peu, j'ai pris du recul. Voilà. Et donc, quand j'y suis allée en septembre, donc, j'ai eu le premier rendez-vous. Et il m'annonce en gros qu'en fait, j'aurais pas une opération, mais 4 opérations. Et là, la douche froide. Moi, je m'attendais vraiment à avoir une seule opération, et avec cette opération directement, et ben ressortir avec mon sein, nickel, et voilà. Allez, une seule opération, tout douille, allez, 5 000 € et c'est fini. Et en fait, pas du tout. Il m'a donc 4 opérations, donc ça va être d'abord un lipofilling, ensuite, si le lipofilling a bien marché, il y aura un expander. Donc un expander, c'est une sorte de semi-prothèse qu'on gonfle avec, je crois, que du sérum physiologique, qu'on gonfle, et ça permet en fait à la peau de s'habituer pour préparer la peau à la prothèse. Et ensuite, donc la troisième opération, c'est la prothèse. Et la dernière, c'est la symétrisation par rapport au sein qui est sain, donc celui qui n'est pas malade, pour qu'il soit remonté un petit peu, une sorte de lifting du sein. Alors, moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc là, on était en septembre et je me dis, mais là, attendez, moi, j'attendais d'avoir mes... Moi, je vais avoir mes seins pour l'année prochaine, quoi. Donc, là, ça ne va pas le faire, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, bon, je me suis dit, allez, vas-y, soyons fous, j'en parle avec mon mec. C'était début septembre, je crois qu'on était vers le 10 septembre, et il m'annonce, du coup, il me propose une date, le 10 octobre. J'ai dit, non, c'est trop proche. Et par contre, il me dit, bah, le 24 octobre, je peux. Et je me dis, bah, c'est les vacances scolaires, soyons fous, allez, let's go. J'aurais fait une grosse partie d'Octobre Rose, j'aurais fait tous mes engagements que j'avais. J'avais le lancement, la sortie de mon livre, de mon deuxième livre aussi. Donc je me suis dit, faut pas que je... Voilà, c'était début octobre mon livre. Il fallait vraiment que j'ai tout fini avant. Donc 24 octobre, très bien. Et donc à ce moment-là, ça faisait 1 an et demi que j'avais eu mes rayons. Donc ma peau était un peu cartonnée. Voilà, donc je fais cette première opération. Donc je rentre, c'était un ambulatoire, hein, c'était à Paris, c'était à Hartmann, à Clinique Hartmann à Paris, qui venait d'être toute refaite, et en ambulatoire. Donc on a dormi 3 nuits à Paris, je crois 2 ou 3 nuits, je ne sais plus, parce qu'il fallait que je sois pas très loin au cas où j'ai de la fièvre, etc. après l'opération, parce que c'est l'ambulatoire, il faut quand même que je sois surveillée. On a toujours notre appartement à Paris, mais il est loué, donc voilà, on a été à l'hôtel. Et on a voulu y aller à pied. Donc moi, j'avais besoin de, voilà, de souffler, de pouvoir y aller à pied, comme quand j'allais avec Rel à pied de chez moi. J'avais besoin de ce trajet à pied qui est hyper important pour moi, de m'aérer la tête, etc. Donc j'y suis allée, voilà, j'ai fait un rendez-vous. Et je crois, c'est ça, je crois en fait que lors de ce rendez-vous, il y avait une autre personne qui était appelée, qui me connaissait. Elle avait dû lire, voir peut-être des informations sur mon livre. Elle me fait, ah, c'était Émilie, vous avez écrit un livre. On a rentré en même temps. Il y avait le chirurgien qui était juste devant. Et en fait, elle est retournée, elle, parce que sa prothèse s'était retournée. Et là, je me suis dit, oh là là, mais ça peut arriver, ça. J'étais vraiment en panique. Hein. J'étais vraiment dans un monde complètement à l'ouest là-dessus. Il faut le savoir. Moi, je me suis très peu renseignée. J'ai un peu honte de le dire, mais en fait, on est censé voir une vidéo qui dure à peu près 2 heures, qui explique tous les choix de reconstruction. Et moi, je ne voulais pas qu'on me prélève quoi que ce soit ailleurs, dans le dos, du dorsal, dans le ventre. Je voulais une prothèse. C'est un choix voulu, même si je sais qu'il peut y avoir des problèmes avec des prothèses, etc. Il y en a qui me parlent de syndrome, je ne sais plus comment ça s'appelle, un syndrome par rapport à la prothèse, qui peut causer des problèmes. Moi, j'ai dit, je suis prête à prendre le risque, je ne veux pas du tout de comprendre quoi que ce soit. Les cicatrices, j'en ai ras-le-bol, j'ai assez souffert, j'ai des copines qui ont des prothèses, je veux une prothèse. Alors, c'est pas la même chose, certes, mais voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais. J'avais d'autres copines qui l'avaient fait aussi. Je pensais à Caroline de Mon Petit Closet, pour qui ça s'est très bien passé. Elle avait même, elle, demandé que l'autre sein soit enlevé aussi et reconstruit avec une prothèse. Donc voilà, je me suis dit, d'autres copines l'ont fait, je le fais, et voilà. Et donc, ce qui s'est passé, donc c'est que j'ai fait cette opération de lipofilling qui s'est très bien passée, franchement, anesthésie nickel. J'étais sortie, 1h30 après j'étais sortie, il faut le savoir, je marchais, je rentrais à l'hôtel avec mon mec, on est parti manger au resto. J'étais avec ma gaine de contention, vraiment, que je devais garder pendant un mois, donc assez drôle entre guillemets. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que moi j'ai jamais de chance, c'est que vous le savez, en tant que femme, on est souvent sujette avec les règles à des arrivées inopinées. C'est ce qui m'est arrivé, mes règles sont arrivées genre 1 heure avant de rentrer en salle d'opération et je me suis dit, oh, comment je vais faire? Parce que moi je mets que des culottes de règles, comment je vais faire? Donc j'en parle aux infirmières, voilà, délicatement, voilà, excusez-moi, mes règles viennent d'arriver et tout. Elles me disent, vous inquiétez pas, vous allez mettre un slip jetable, je sais même plus, etc. Ce qu'elles m'ont dit, j'ai donné un filet et tout, où je crois que j'avais rien. Et en fait, quand je suis sortie de la salle d'opération, elle m'avait mis quelque chose, une protection, bref. J'ai eu quelque chose, elles me se sont occupées, elles m'ont dit, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la première à qui ça arrive, on a l'habitude, on n'est pas là pour. D'ailleurs, ils ne sont pas là pour me s'occuper de... J'ai pas d'opération à ce niveau-là, mais j'allais être nue, parce qu'on allait mettre ma gaine, en fait, pendant que qu'ils m'opéraient. Parce qu'en fait, le lipofilling, on va vous prendre de la graisse avec une zone qui a été délimitée avec le chirurgien juste avant de rentrer en salle d'opération. Donc voilà, il faut l'imaginer, le chirurgien qui vous voit bah, à poil hein, quasiment et qui fait des zones sur votre corps. Où est-ce qu'il va vous prendre? Alors vu que moi j'avais mes kilos en trop suite à la chimiothérapie orale, j'avais de quoi faire. Franchement, j'étais là super, j'ai un petit une petite liposuction avant de commencer à perdre du poids, c'est génial. Et donc on m'a pris au niveau du ventre, donc j'ai 4 cicatrices maintenant, 4 points où on m'a un peu aspiré à ce niveau-là. Et voilà, j'aurais préféré qu'on prenne entre les cuisses parce que c'est une zone où je n'arrive pas à perdre depuis tout ce temps, mais ce n'était pas le cas. Et voilà, donc ça s'est passé, je suis sortie du coup du bloc avec cette gaine. Je ne sais pas si vous en souvenez, pour les personnes qui me suivaient, j'avais fait une photo en story où on voyait que la gaine, voilà, c'est comme c'est tout noir, c'est quelque chose avec des agrafes qui permettent de compresser, de ne pas, pas avoir de bleu et de ne pas avoir de problème de circulation du sang, voilà, de bien cicatriser, de ne pas avoir de problème, quoi que ce soit derrière. Moi, nickel, franchement, nickel. C'était un peu chiant quand même, on va pas se mentir, ce truc-là. Je pensais à la fin qu'en fait, la gaine n'avait pas fonctionné. J'ai vu le chirurgien peut-être 6 semaines après. Je lui ai dit, je suis vraiment désolée, hein, ça n'a pas marché. En fait, j'attendais à avoir du volume dans mon sein. Alors qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai rien compris. Et en fait, il m'a dit, mais pas du tout, c'était juste pour faire décoller la peau. En fait, toute la graisse qu'on m'a injectée, parce que vu que mon sein a été irradié, qu'il n'y avait rien derrière, et ben en fait, ma peau elle avait un peu cartonné. Et ça a aidé vraiment ma peau à ressortir. Alors, ce qui a aidé aussi, je pense, c'est que je continuais de voir, en fait, ma chirurgienne. Je continuais de voir ma kiné, spécialiste dans le sein, Emmanuel, qui est devenu une pote, et une fois par semaine, qui s'occupe, même deux fois au début par semaine, qui s'occupait de ma cicatrice de mon sein pour éviter des adhérences, etc. Et c'est vraiment grâce à elle, je pense, que ça a permis un succès incroyable. C'est-à-dire que j'ai appris à ce moment-là, lors de ce rendez-vous, que non seulement, ça, bien sûr, le sein avait bien pris, l'opération avait très bien marché, mais surtout, je sautais l'étape de l'expandeur. C'est-à-dire que j'avais une anesthésie générale en moins et surtout de l'argent mis en moins. Enfin, il faut quand même comprendre que c'est de l'argent qui ne sera pas remboursé. Et j'étais hyper contente de me dire « Waouh, une chose positive arrive !» C'est bien ça, parce que je me suis dit « C'est quand même un chirurgien bon, privé, il va me faire payer une blinde. » Alors que pas du tout. Comme quoi, c'est aussi un très bon chirurgien, c'est qu'il ne m'a pas fait une opération qui n'était pas utile. Voilà, il ne m'a pas rajouté une opération inutile. Ensuite, donc, on s'est donné un rendez-vous du coup en janvier, 24 janvier, il me semble, donc 3 mois après la première opération, pour du coup cette fameuse pose de la prothèse. Alors là, c'est un autre protocole. Moi, comme d'hab, je m'en voulais parce que j'avais pas eu le rendez-vous avec l'anesthésiste, un autre anesthésiste que vous savez qu'il faut toujours faire. Donc j'allais à Paris, je prenais le train très tôt, prendre un rendez-vous pour avoir ce rendez-vous pour me dire oui, c'est bon, on peut se faire opérer. Franchement, c'était des choses inutiles. Je l'ai fait 3 mois avant le rendez-vous. C'est vraiment de la perte de temps et d'argent. Mais bon, je l'ai fait. J'ai eu ce rendez-vous. J'ai fait. Du coup, j'avais envoyé les papiers à la mutuelle, à la sécurité sociale pour qu'ils prennent en charge l'opération. Donc pour moi, c'était en gros l'argent que j'allais avancer, j'allais me faire rembourser. Donc comme quoi, je n'ai rien compris. J'ai bien compris bien plus tard que c'était les dépassements d'honoraires dont j'ai parlé plus tôt. Mais donc en gros, donc j'ai fait cette opération qui s'est très bien passée. Par contre, je ne vais pas vous mentir, je suis sortie de là avec une anesthésie générale qui m'a décalquée. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà, c'est très bête. Mais ça a été une grosse claque. J'ai mis beaucoup de temps à me réveiller de cette opération. Et c'est pour ça que derrière, depuis, je ne veux plus me faire opérer parce que ça m'a vraiment très très fatiguée. Et je me suis dit, j'ai besoin là d'un an ou 2 ans de pause. J'ai plus envie de me faire opérer. J'ai vraiment eu du mal à émerger de cette anesthésie générale. Il y avait beaucoup de monde, etc., en salle de réveil. Et je me sentais partir à de nombreuses reprises parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à sortir de cet état un peu comateux. Et vu qu'on avait les enfants, etc., c'était pas pour mes vacances scolaires, j'ai dit à mon mec de pas venir. Donc là, la première fois, mon mec était là. La deuxième fois, il n'était pas là. Alors qu'en plus, je suis restée dormir. Et c'était vraiment pour moi quelque chose de compliqué, au final, de ne pas lui avoir demandé d'être là parce que je le regrettais, parce qu'en fait, j'avais besoin de me sentir soutenue, de pouvoir pleurer si j'avais envie de pleurer de fatigue. Et c'était pas ce que j'ai eu. Donc bref, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'étais très contente du résultat. Franchement, voilà. Une fois que j'étais en chambre de réveil, que j'ai pu manger, ça allait beaucoup mieux. Mais alors le réveil où tu peux pas manger pendant X temps, au cas où il y a un problème, c'était très dur pour moi. Surtout le façon où j'étais vraiment en coltard. Je suis pas quelqu'un de là-dessus très compliqué, mais alors j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de mal à me réveiller de cette anesthésie générale. Et en fait, la douche froide aussi, c'était que en fait j'ai appris que c'était pas 400 € par nuit, mais 400 € par jour que je dépensais dans cette clinique privée. Donc 800 € à payer, qui n'ont quasiment pas été remboursés par la mutuelle. Ça aussi, je trouve ça un peu dégueu. Je suis contente. On m'a dit, oh, t'es sortie avec tes dringues, etc. T'aurais pu rester à l'hôpital, je viens de dire. Alors, pour mettre tout mon PEL là-dedans, non, en fait. Plutôt contente d'être sortie rapidement. Mais c'est vrai que je suis sortie de l'hôpital avec mes dringues. Donc j'ai pris le train, en plus. Enfin, n'importe quoi, avec le recul, je me dis, franchement, warrior la fille. Donc j'ai pris le drain, j'étais avec ma petite valise et tout, ma poche et tout, j'avais ma banane, enfin franchement. Et j'avais prévenu mon infirmière, Fanny, qui venait à la maison, etc., me faire mes soins quotidiens, etc., que l'habitude, hein, qui était là pendant toutes mes chimios pour faire mes prises de sang à la maison, qui s'est bien occupée de moi après ma mastectomie, enfin vraiment une chouette personne. Et je ne sais plus si vous vous en souvenez, j'ai eu 2 problèmes suite à ma reconstruction. La première, c'est que donc, j'avais ces drains à la maison. Et à la maison, j'ai des poignées un peu chelous au niveau des poignées de cuisine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Je venais de faire une story. Mon infirmière venait juste de partir. Le drain s'est coincé au niveau des poignées de ma cuisine, parce qu'il y a des petits rebords qui sortent au niveau des poignées. Ça s'est coincé, ça s'est enlevé en fait. Donc ça s'est cassé en fait du fil. Donc j'étais plus reliée au drain. Et donc un risque potentiel de faire une infection. Donc, j'ai prévenu tout de suite mon infirmière, j'ai appelé tout de suite la secrétaire de mon chirurgien et je me suis limite fait engueuler. Alors ça a été très difficile aussi, limite passé pour une conne, hein, vraiment, d'avoir eu ce problème-là. Alors que bon, excusez-moi, mais je suis jamais sortie avec des drains chez moi. Quand j'étais ma mastectomie, je suis restée tout le temps qu'il fallait à l'hôpital pour ça. Là, je suis sortie avec ça parce que j'étais dans le privé. Et j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait le tour des pharmacies parce avec mon amie et associée Margot qui m'a fait vraiment tout le tour. On devait manger ensemble ce jour-là. Elle m'a pris en voiture, on a fait tout le tour, on a essayé de trouver. Et grâce à une lectrice qui écoutera peut-être ce podcast qui habite dans ma rue, elle m'a sauvée, elle bosse à l'hôpital. Elle m'a dit, j'ai ce qu'il faut, je vais te le raccorder. Et vraiment sans elle... j'aurais été dans la merde. Je le dis vraiment, je suis allée faire la queue dans les urgences, il y avait une queue pas possible, j'ai dit je peux pas. Elle m'a pris tout de suite sur sa pause déj et elle m'a fait ça. Donc franchement, beaucoup de chance à ce niveau-là. J'étais hyper en colère parce qu'en fait, elle m'avait pas enlevé mon drain, l'infirmière, parce qu'il donnait encore un peu de sang le matin même, mais en fait, il n'a plus donné du tout derrière. Donc elle aurait très bien pu l'enlever, mais bon, c'est pas grave, c'est pas une colère contre elle, hein. C'est une colère contre le fait d'avoir ses drains, en fait, que je suis sortie quand même avec ça, et que les infirmières, les secrétaires du chirurgien n'ont pas été exceptionnelles à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que j'ai fait une réaction allergique. Alors en fait, j'ai fait une réaction allergique au sein. J'ai vraiment cru que je faisais un rejet des prothèses. Et j'ai dit à mon mec, écoute, j'étais en larmes, je lui dis, écoute, je te préviens, si c'est à cause des prothèses, je les enlève et plus jamais je me fais reconstruire. C'est bon, j'en ai marre, j'ai donné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon sein a commencé à rougir. Je ne savais pas trop d'où ça venait. Donc j'avais eu ce fameux soutien-gorge que me conseillait mon chirurgien, qui coûtait quand même une petite fortune, hein, qui n'était pas remboursé non plus. Et j'avais à côté de ça une autre soutien-gorge de compression de chez Decathlon. Et en fait, j'ai fait une réaction allergique à ce truc de chez Decathlon. Donc je suis quand même allée voir en urgence mon chirurgien. Quand je lui ai envoyé le mail, il l'a vu tout de suite. Il m'a dit, venez à mon cabinet demain matin, j'y serai à 7h50. J'ai fait, moi j'habite Rouen en fait. Et le mercredi, on amène nos enfants... À leurs activités, c'est toujours très compliqué. C'est vraiment pour ça que je viens jamais, ou en tout cas très rarement à Paris le mercredi, parce que c'est toujours un casse-tête pour nous. Mon mec m'a dit, t'inquiète, je gère. Donc j'ai pris le premier train. J'ai pris le train, je crois, à 6h13. Je suis arrivée à 7h39 à Paris. À 7h50, j'étais dans le cabinet du chirurgien. Il n'y a pas eu de retard. Sur la ligne 3, vraiment, il m'a pris tout de suite. Donc le mec a quand même une vie, quand même, qui vaut un peu son argent, hein, qu'il a. Mais... il m'a dit, voilà, pour moi, j'avais besoin de voir, j'avais envoyé une photo, il m'a dit, moi, il fallait que je vous voie, il fallait que je comprenne, c'est bien une réaction allergique. Il me dit, donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est mettre un t-shirt 100% coton sur la peau et par-dessus le soutien-gorge. C'est ce que j'ai fait, ça m'a sauvée, je n'ai plus le sein rouge, c'est revenu normal, j'ai mis la crème qu'il fallait, etc. Donc franchement, merci à lui. Donc si jamais ça vous arrive, bah, sachez que c'est sûrement ça. Et voilà, je suis revenue à la maison, soulagée, j'avais vraiment très très peur. Je me suis dit, c'est pas possible. Et après ça, plus de soucis du tout. Mon sein est venu vraiment canon. J'ai revu le chirurgien peut-être 2 mois plus tard. Et on a parlé de la troisième opération qu'on devait faire, c'est-à-dire que la symétrisation, puisque vu que j'avais loupé, enfin que j'ai eu en moins cette opération avec l'expandeur, je devais du coup faire une symétrisation. J'ai dit, écoutez, je pense qu'on est pas mal, je vais pas la faire. Il m'a dit, effectivement, votre sein gauche, elle a l'air pas mal, et puis on verra plus tard. Et c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire maintenant. Quand j'ai dit, j'ai trop souffert, je veux plus, j'ai dit on verra plus tard. J'ai continué avec ma kinésithérapeute à faire un massage de ma cicatrice de mastectomie de reconstruction, hein, c'est la même qui a été utilisée pour que la cicatrice soit plus belle, que le sein ne soit plus gondolé, parce qu'en fait il y a une sorte de baie qui s'est creusée parce que pendant quelques mois j'ai pas vu ma kiné. Il suffit d'un rendez-vous manqué pour ne plus l'avoir et plus prendre rendez-vous, etc. Et en fait ça s'est un peu creusé, ça s'est un peu vous savez, quand on touche pas une cicatrice, elle peut un peu comment dire, s'indurer, je sais plus si on dit ça comme ça, mais en gros la cicatrice n'était pas très très belle et le sein s'est vraiment creusé comme un B. Voilà, je sais pas si vous voyez un B, vraiment le B, vous savez, ce tout creux qu'on a, c'était un peu comme ça. Et Emmanuel a fait des merveilles, sincèrement, j'ai quasiment plus un B, ou alors un B écrit par un médecin, donc assez lisse, c'est vraiment chouette. Et Emmanuel m'a parlé du coup d'une technique de laser. Elle m'a parlé d'un cabinet de dermatologie à Rouen, qui s'appelle la clinique Dermato. Elle, c'est des patientes à elle. Enfin, en tout cas, elle va donner des cours là-bas. Et du coup, elle m'en a parlé. Elle m'a parlé d'une technique de laser dont j'avais déjà entendu parler, du laser fractionné et du laser qui s'appelle du LASMD. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec le dermato. J'en ai profité pour faire un contrôle de mes grains de beauté parce que c'est important, j'en ai beaucoup, surtout avec un passif de grains de beauté. Et je me suis dit, bah, en même temps, j'allais faire un check-up aussi donc de ça, voir pour le laser cicatrice et pourquoi pas laser dépilatoire. Donc, je fais un combo des trois. Donc, on m'a d'ailleurs enlevé un grain de beauté suite au premier rendez-vous parce que j'avais un grain de beauté qui avait changé deux fois de couleur. Il n'est pas cancéreux du tout, j'ai eu les rendez-vous et tout, mais au moins, je suis contente de l'avoir fait. J'ai ce rendez-vous aussi de laser, donc du coup sur mes cicatrices. Donc on en profite, cicatrice de mastectomie, cicatrice de chambre implantable, parce que c'était une cata. Franchement, ils m'ont enlevé ma chambre implantable lors de la première opération quand j'ai fait le lipofilling. Je trouve qu'ils ont fait un peu à l'arrache. La cicatrice était beaucoup plus grosse qu'au début et je ne m'en suis pas du tout occupée. Donc là, on passe le laser dessus, de césarienne aussi et du fameux grain de beauté enlevé. Donc j'ai 4 cicatrices, ça fait pas mal. J'ai cette séance tous les mois. Donc une séance par mois, on fait du laser fractionné. Et la séance d'après, c'est du LASMD. Donc c'est une technique différente qui fait vraiment... je sais pas comment, ça rentre en profondeur. Et si je vais vous lire un truc... Donc, là par contre, on met du MLA, hein, mais la crème MLA parce que ça fait mal. Ça marche du tonnerre. C'est-à-dire que ma cicatrice, elle s'est réduite en largeur. Enfin, pas largeur, en hauteur, pardon. Parce que la largeur, elle est toujours aussi large, mais en hauteur, elle a en un tiers. Là, elle fait un tiers de ce qu'elle était à l'avant. C'est vraiment... Là, je regarde mon sein quand je vous parle. Incroyable. Et ça devient... Elle est vraiment blanche. Donc là, je découvre en fait ce que c'est que d'avoir une cicatrice vraiment avec un fil blanc. Même sur ma césarienne, c'est incroyable. Je suis trop contente. C'est vraiment un super truc. J'aimerais que ce soit remboursé. Je souhaite que ce soit remboursé. Elles se battent pour ça, les personnes qui bossent là-dessus. Donc, à un jour, ça arrivera peut-être. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, je n'ai aussi pas parlé du mamelon. Parce que quand on m'avait retiré le sein, on m'avait retiré le mamelon aussi. Parce que comme je l'avais dit, j'avais 6 cicatrices. Enfin, pardon, j'avais 6 tumeurs dans le sein. Et donc, on m'avait aussi enlevé le mamelon. Donc, c'était une perte, hein, mais ce n'est pas très très grave. Parce qu'il existe... des mamelons repositionnables qui s'appellent Pink Perfect. C'est Pink Perfect qui a fait ça, le premier, les pionniers. J'avais découvert ça dans Rose Up. Et l'année dernière, j'ai reçu du coup des mamelons de chez eux. Aussi vrai que nature, c'est incroyable. Il suffit de coller avec une colle spécialement faite pour la peau, qui s'enlève vraiment facilement, etc. Et c'est incroyable. Il faudrait un jour quand même que j'en parle en story, que je vous montre le résultat. C'est incroyable. Mais je ne le mets pas tout le temps. Alors un jour, j'ai fait la connerie récemment de porter une robe sans soutien-gorge avec un mamelon et il est tombé. Voilà, ça faisait quand même 9 jours que je l'avais. Il tient vraiment vite, même entre 7 et 10 jours, même en prenant des douches, etc. tous les jours, sans souci. J'avoue que je suis dégoûtée. Le soir, je me déshabille, je fais « Ah, oh, j'ai perdu le mamelon !» Peut-être que quelqu'un a dû se dire « C'est quoi ce truc ?» Ce mamelon dans la rue, c'était le mien, voilà. Mais il m'en reste 2 autres et c'est vraiment une invention incroyable. Moi, je ne souhaite pas me faire reconstruire le mamelon pour le moment, je n'ai pas besoin. Et donc, il y a cette technique de Pink Perfect qui existe, qui est aussi vraie que nature. Peut-être qu'un jour, je me ferai tatouer le mamelon, mais je suis quelqu'un que je trouve que j'ai assez souffert dans la vie. Et s'il y a des solutions qui existent qui sont très bien, pourquoi pas ? C'est aussi pour ça que j'ai fait aussi une reconstruction mammaire par prothèse. C'est parce que quand j'ai fait une des recherches pour mon livre, je me suis rendu compte qu'il y avait une start-up française qui s'appelle Lattice Medical qui bosse sur cette prothèse biodégradable qui devrait arriver, je pense, d'ici quelques temps. Ça va arriver, j'en suis sûre et certaine. C'est en train de faire des gros progrès parce que beaucoup de gens m'en ont parlé, mais j'étais là, je le sais, j'en ai parlé il y a 2 ans dans mon livre. Et je me suis dit, dans X années, dans une dizaine d'années, je devrais me faire à nouveau opérer pour sûrement changer la prothèse. Hein, c'est ce qui risque d'arriver, je le sais. Mais moi, je parie sur l'avenir, je parie sur le fait qu'après, il y aura peut-être cette prothèse-là qui va arriver, que j'aurai plus besoin de me faire opérer à nouveau. Donc, ce sera peut-être la dernière fois que je me fais opérer pour me faire changer la prothèse. Et que voilà, c'est le futur. Je parie vraiment sur le futur là-dessus. Et surtout, ma prothèse, je la vis très bien, je la sens pas. Je suis très heureuse de l'avoir parce que des fois, quand j'ai des douleurs dans l'autre sein, ou des, vous savez, quand on a nos règles, voilà, je comprends mieux mon corps maintenant. Je sens quand je vais avoir des kystes dans mon sein au niveau des du moment des règles. Ça ne dure pas, mais ça peut faire un peu mal et je commence des fois à paniquer. Je me dis après, tu as tes règles, c'est normal, don't panic. Et voilà, et c'est vrai que le fait d'avoir une prothèse, bah, c'est cette peur en moins. Après, la peur n'évite pas le danger. Des fois, je flippe pour un petit bouton sur mon sein. Je flippe sur des choses. Et voilà, j'essaie de me rappeler que je le fais contrôler. Je suis quand même contrôlée régulièrement. Il n'y a aucun souci là-dessus à ce jour. Et voilà, je vis bien. Je me dors sur le ventre comme je le faisais avant. Je fais plein de choses nickel. Je fais du sport. Je fais vraiment plein de choses et ça m'empêche pas de continuer à avoir une vie très belle. Et je sais que d'autres aussi ont eu des reconstruction avec du grand dorsal ou avec d'autres choses et qui sont très très heureuses. Voilà, moi c'était vraiment ma reconstruction par une prothèse. D'ailleurs, c'était pas douloureux. Je le dis aussi parce que j'ai très bien vécu. Une fois passé l'anesthésie générale, j'ai pas vraiment eu mal. J'avais du doliprane, ça a pas trop duré. Là, je suis très heureuse en fait de ce choix avec le recul. Peut-être que je me ferai un lipofilling. Ce serait un choix que je me suis fait, mais à Becquerel, par une des chirurgiennes de Becquerel. Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est un choix très personnel de se faire reconstruire ou pas. Quel type de reconstruction ? Je sais que c'est la question d'énormément de femmes. Moi, je vous dis juste de vous faire confiance, de faire ce que vous avez envie de faire. Et voilà, tout ira très bien. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions que vous avez eues. Mais voilà, je suis hyper fière de continuer à faire vivre ce podcast. Il y aura d'autres épisodes qui vont arriver. Il y aura des nouvelles interviews qui vont arriver. C'était vraiment quelque chose d'assez impromptu. Je n'ai pas écrit ce que j'ai... Enfin, j'ai commencé à écrire un peu le début de l'épisode. Là, j'ai vraiment parlé avec le cœur, avec les souvenirs que j'ai. Et voilà. Je vous embrasse. Et merci en tout cas de faire vivre Triple Négatif.